Élargis l'espace de ta tente, c'est le titre du document préparatoire publié par le secrétariat général du synode sur le synode pour l'étape continentale, un document qui déclare également que le synode avance, se réjouissant d'une église en mouvement qui nourrit chez les chrétiens, je cite, le désir d'une église de plus en plus synodale. Pour évoquer cette nouvelle étape donc du processus synodal dont nous nous réjouissons tous évidemment, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour Monsieur Maxence et bonjour auditeurs et spectateurs.
Ah très bien, c'est beau cet effort ecclésiastique. Le père Jean-François Thomas,
bonjour
mon père. L'abbé Hervé Benoît.
Bonjour Philippe, bonjour aux auditeurs, spectateurs, téléspectateurs.
Et voilà, et c'est bon. Et notre ami Guillaume de Thieulois.
Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs.
Alors faut-il le dire dans le micro de ce, dans ce micro-synode plus exactement que nous constituons ici le synode des hommes en noir, une grande partie des forces vives de cette noble assemblée sont représentées, puisque l'abbé Cellier est de la fraternité Saint-Pilis, le père Jean-François Thomas est religieux et jésuite, si je ne me trompe pas, l'abbé Benoît est prêtre diocésain et recteur de sanctuaire, ce qui est important quand même, et quant à Guillaume de Thieulois, il représente le noyau atomique de l'Église en marche.
C'est comme ça que je me sens défini.
Et je le remercie donc de représenter le laïcat. Alors, cela étant dit, et trêve de plaisanterie, j'avoue que je suis complètement perdu dans ce processus synodal. Il semblerait qu'on arrive à la quatrième étape, c'est ça, et que c'est l'étape continentale. Alors, si vous pouvez nous expliquer où nous en sommes, parce que je ne suis pas sûr d'être
dans le mouvement. Je pense que le principe technique.
Alors, sans taper trop sur la table.
Le principe technique, c'est on se rassemble dans la paroisse, puis on se rassemble dans le diocèse, puis on se rassemble dans l'église nationale, si je puis dire.
Et on se
rassemble sur le continent européen, je
pense. Europe.
Ouais. Et ensuite, il y a la grande synthèse, en 2024, je pense, la grande synthèse du deuxième synode sur la synodalité, car je pense qu'il y a deux assemblées, il me semble. Et il y en a une en 2023 et une en 2024. Et donc, voilà, c'est donc un processus montant relativement classique, effectivement, où on passe d'une étape à l'autre, avec donc tout le problème, c'est que ça devient de plus en plus abstrait, forcément. Hein, plus on monte, plus ça devient abstrait, et je dirais tellement générique que ça n'a plus grand sens. Mais bon, ce processus en plusieurs étapes, ne me paraît pas absolument scabreux, ça fait remonter.
Il n'est pas forcément scabreux, sauf qu'on est un peu perdu dans toutes ces étapes sur un synode qui s'étend sur plusieurs années. Et là, on arrive à l'échelle continentale. On se sent, immédiatement, en lisant juste ça, on se sent complètement dépassé, en fait. Qui va intervenir au sujet de quoi? Synthèse de plusieurs synthèses.
Ils décrivent comment ils ont réalisé le document lui-même, hein, qui a été piloté par le secrétariat du synode, qui s'est adjoint un certain nombre d'institutions et de personnes. Et je pense que ça va être un petit peu comme ça. C'est-à-dire que probablement, il y a une conférence épiscopale européenne qui regroupe les conférences épiscopales de l'Europe, qui, je pense, va être l'instance de pilotage de cette chose-là. Elle va regrouper un certain nombre de personnes. La difficulté de ce genre de choses à ce niveau-là, c'est que c'est très souvent les personnes invitées, donc les personnes individuelles invitées, sont très souvent des apparatchiks de diverses institutions et ONG catholiques, etc., qui sont déjà dans un moule. Donc c'est toujours un petit peu embêtant parce que, en même temps, comment pourrait-on désigner un quidam quelconque français ou allemand, etc., ça serait difficile. Donc c'est quand même très institutionnel, ça va être un petit peu comme ça.
Quoi. Mais vous-même, vous n'êtes pas invité.
Personnellement, je ne suis pas invité, non.
Et père Jean-François Thomas, vous-même, vous êtes invité ?
Pas encore, non.
Mais vous, c'est l'ultime.
Mais est-ce que vous avez fait, à l'intérieur de la communauté, est-ce que vous avez fait une réunion synodale ?
Pas à ma connaissance, non. Non, je dois dire que vous avez été particulièrement cruel de nous imposer la lecture de ce texte. Car,
mais vous savez combien je suis cruel.
Ah oui, vraiment.
Ça se confirme.
Mais là, ça s'est vraiment confirmé. Parce que, je pense que nous avons tous eu l'honnêteté de lire le texte dans son intégralité. Et il faut vraiment, tenir jusqu'au bout. Parce que c'est un ensemble, simplement, en effet, comme l'a dit M. l'abbé, c'est un ensemble de reprises d'échanges qui ont dû avoir lieu dans un certain nombre de réunions, de rencontres, alors à tous les niveaux, des diocèses, des pays. Mais c'est un mélange qui est... On ne voit pas très bien quelle est la direction qui est prise. Et comme vous l'avez dit, on ne voit pas très bien non plus quelle va être l'étape suivante. Que peut-on faire d'un tel texte ?
Alors moi qui comptais, je vais vous donner la parole, monsieur l'abbé, mais je vais continuer le tour de table.
Je vais réagir juste à ça.
Mais moi qui comptais sur vous pour m'éclairer, c'est, je vois qu'on est à peu près clair comme laïc, un peu perdu. Monsieur l'abbé Benoît.
D'abord, je voudrais remercier publiquement l'abbé Cellier parce que je viens de comprendre ce que c'était que le synode. Donc, je ne serais pas venu ici
c'est
pour
rien. C'est merveilleux.
Donc, ouais,
mais vous ne venez jamais pour rien, je tiens à vous le rappeler, ça aussi.
Bon, ça, c'est un autre débat. Sinon, ben, à la lecture. Alors, je confesse publiquement également, je n'ai pas tout lu ce document parce que j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, j'ai picoré. Si vous voulez, d'abord, la première chose, c'est ça m'a fait penser à cette époque bénie de ma jeunesse cléricale. Vous savez, on avait fait un synode diocésain à l'époque. Vous savez, parce que moi, j'emploierais plutôt le vocabulaire médical. Vous savez, la synodalité, c'est une épidémie dans l'Église qui, comme les vagues du Covid, passe et repasse. Et alors, l'Église est saisie de cette volonté de discuter. Et alors, la diffusion du synode, c'est... Le texte, c'est ce qu'on appelait autrefois, alors je ne sais pas si le langage est encore employé aujourd'hui, des remontées de carrefour. Vous voyez, c'était l'expression technique. On faisait des 4-4, hein, on se mettait à 4 autour d'une table, puis ensuite on faisait une remontée de carrefour. Puis après, effectivement, ça monte d'apparatchik en apparatchik. Pour terminer, ben, sur les rayons d'une bibliothèque, hein, parce que le pauvre synode de mon diocèse, qui doit avoir une trentaine d'années aujourd'hui, il est complètement oublié, recouvert de poussière. Oui, tout ça est un peu... Oui, un peu affligeant, finalement. Voilà, c'est beaucoup... Much ado about nothing.
On ne sent pas chez vous un enthousiasme débordant pour le processus synodal. Guillaume de Thieulois, pour moi, finir le tour de table.
J'avoue que...
Vous avez aimé.
Je suis surtout effrayé, moi. Effectivement, la prose tombe des mains, mais en dehors de cet aspect-là, je trouve... Enfin, malheureusement, je pense que la direction est parfaitement claire. Cette insistance sur le processus, l'Église en marche, le machin, ça sent la manipulation des foules à plein nez. Enfin, en tout cas, en politique, un truc comme ça, je sais très bien comment ça finit. Hein. La convention citoyenne sur l'écologie ou sur l'euthanasie, je peux vous dire la conclusion avant d'avoir commencé. Et là, je peux écrire l'exhortation post-synodale. Enfin, je sais pas, c'est évidemment... Mais ça sent la manipulation des foules à un point qui est absolument fascinant. Je sais pas d'ailleurs si peut-être que les clercs n'ont pas l'habitude de ça. C'est tout à fait possible, j'en sais rien. Mais toute personne qui en fait un peu de politique dans sa vie dit hop hop hop, je vois ce que vous voulez faire.
Alors Monsieur l'abbé Cellier, je vous ai coupé.
Ah voilà, non, je voulais réagir.
Donc réagissez maintenant.
Je réagis à ce qu'a dit le père Thomas. Sur le style, on croirait donc un séminaire d'entreprise, vous savez, pour renforcer la cohésion, n'est-ce pas, des salariés, où on déverse un flot de galimatière. Je voudrais lire deux, trois phrases pour que les auditeurs et spectateurs comprennent le style. Il est important de construire un modèle institutionnel synodal comme paradigme ecclésial de déconstruction du pouvoir pyramidal qui privilégie la gestion unipersonnelle. Ce désir de co-responsabilité se décline avant tout dans la clé du service de la mission commune, c'est-à-dire avec le langage de la ministérialité. Marcher en synode, en s'écoutant les uns les autres, en participant à la mission et en s'engageant dans le dialogue, a probablement une dimension de déjà là et de pas encore bien présente, mais beaucoup reste à faire. La mise en œuvre d'un modèle d'interculturalité où les diverses propositions se complètent et s'enrichissent mutuellement, dépassant ainsi celle de la multiculturalité qui consiste en la simple juxtaposition de cultures enfermées dans leur périmètre. Non mais c'est du galimatien, c'est du n'importe quoi qu'on nous inflige.
Il y avait autrefois sur Internet un site magnifique
de sermons
qui s'appelait le Pipotron ecclésiastique, voilà. Malheureusement a disparu, et qui produisait au kilomètre ce type de document.
Donc déjà, cette amphigourie est déjà imbuvable, scandaleux. Enfin, je veux dire, il faut vraiment balayer tout ça. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est simplement dans le style. Hein. Comme dit M. Thieulois, l'axe derrière est extrêmement subversif. Mais déjà, le style, il faut dire non, on ne peut pas lire ça, ce n'est pas possible.
Oui, alors en effet, une fois qu'on a balayé tout ce qui peut être un peu risible et caricatural, il reste un message qui revient constamment, c'est le message de l'unité, de l'accueil de toutes les différences, de l'accueil de l'autre, etc. Il y a cette belle phrase, à un moment donné, qui dit « personne n'est exclu ». Or, on sait très bien qu'actuellement, dans l'Église, au contraire, il y a des fidèles qui sont exclus, notamment ceux qui sont attachés à la tradition. Donc, le texte synodal continental, là, ne dit pas toute la vérité et essaye de cacher, en fait, la forêt.
Effectivement, vous voulez intervenir, Guillaume, oui, pardon.
Juste un mot, je suis très frappé parce que dès le début du texte, on voit qu'il y a d'énormes résistances à ce processus que soi-disant l'Église entière attendait avec impatience. Il y a un passage en particulier sur les mauvaises herbes de la synodalité qui est absolument fascinant. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage-là. Alors, à la lecture du passage, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est les mauvaises herbes. Ce n'est pas compliqué, il y a deux pages pour expliquer. C'est impossible. En revanche, on comprend très bien qu'il y a des résistances. Alors, on ne sait pas si c'est ça, les mauvaises herbes ou pas, mais qu'il y a des résistances, et en particulier des résistances au fait qu'on voudrait, peut-être, appliquer un processus politique à l'Église. Et donc, évidemment, le secrétaire général du Synode nous avertit que ça ne sera pas une Église démocratique. Ah ben, on est rassuré. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ça sera une convention citoyenne, ça ne sera pas un Parlement, ça sera mieux.
Voilà. Mais alors, ça, c'est une transition parfaite pour le sujet que je voulais aborder, puisque ce document évoque le sensus fidei, sur lequel il est censé s'appuyer. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que le sensus fidei, ça correspond à une expression démocratique de ce que ressent ou pense le peuple chrétien, ou ce que c'est une catégorie différente malgré tout.
Alors, au
je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais...
Là, vous parlez du sensus fidei tel qu'il a été défini par le Concile Vatican II, où il est explicitement employé, mais c'est une expression traditionnelle, hein, on ne va pas dire que ce n'est pas une expression traditionnelle, mais comme dit saint Thomas, dans la messe, tous participent, le prêtre en étant actif et les fidèles en recevant les dons du Christ. Donc, le sensus fidei, c'est une réception. C'est-à-dire que lorsque l'Église fonctionne bien, il y a, si, venant d'un prêtre ou d'un quelconque membre de la hiérarchie, une proposition qui aille contre la foi, il y aura une réaction vitale du corps ecclésial chrétien qui dira « ça ne va pas ». Je rappelle que face au nestorianisme, c'est un laïc qui, alors que Nestorius prêchait contre la Sainte Vierge dans Sainte-Sophie, je pense, c'est un laïc qui s'est levé et qui a dit « scandale, ce n'est pas possible ». Et ça, c'est le sensus fidei. Mais je pense qu'ici, dans ce document, le sensus fidei est totalement instrumentalisé au service d'un projet qui veut transformer les choses.
En parlant d'instrumentalisation, je me creusais le cerveau pour essayer de préparer la rencontre que vous nous avez proposée sur ce sujet. Parce que j'ai entendu s'exprimer Emmanuel Todd, le sociologue et historien. Et il parlait de ces emballements à l'intérieur des structures sociales, que ce soit les églises, les partis politiques, les entreprises, etc. Il y a un certain moment, il y a une espèce d'emballement où on utilise les mots où effectivement, certains détenteurs de pouvoir utilisent ces mouvements-là pour au service d'autres. J'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, parce qu'il y a aussi des braves gens qui se préoccupent de l'état de l'Église, d'annoncer l'Évangile, de faire découvrir notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Ils se disent, peut-être que si, je vais donner mon avis, je vais participer à ça, et ils sont pris là-dedans. Enfin, qui est agi ou qui agisse, c'est assez compliqué, mais il y a une espèce de... Quand j'employais le vocabulaire médical, il y a ça aussi. Enfin, quand vous regardez les choses un peu de l'extérieur, il y a une espèce d'emballement. Après, on ne sait plus qui est vraiment acteur là-dedans. Vous voyez,
mais c'est le propre de ce type de processus, justement.
Qui en plus, quand même, se nourrit de l'idée que dans l'Église aussi, ce qu'on appelle la collégialité, enfin l'idée qu'on demande son avis à tout le monde avant de prendre certaines décisions, etc., commencer par dans les monastères bénédictins, il y a quelque chose de ça, si vous voulez, aussi. Donc, ces processus qui pourraient être qualifiés de débordement prennent racine dans un terreau qui...
Oui, mais normalement, la prise de conseil s'effectue par la hiérarchie instituée. j'allais dire naturelle, même si dans l'Église elle est surnaturelle, mais et donc normalement c'est l'évêque qui prend conseil, mais pour prendre conseil, on n'a pas besoin de réunir une assemblée de type démocratique. Père Thomas, vous vouliez me corriger peut-être ?
Non, non, pas du tout, non.
J'en ai besoin, vous savez.
ce qui me frappe, c'est de voir à quel point l'insistance est mise sur le fait que rien n'est stable et que tout doit avancer, que tout doit changer. Le titre même qui a été utilisé, alors évidemment, c'est un « élargis l'espace de ta tente », c'est bien dans le texte d'Isaïe, donc ça fait partie de la révélation. Mais c'est utilisé de telle façon qu'on comprend bien qu'une tente, ce n'est pas une habitation stable. Donc on la plie, on va ailleurs, et donc tout le texte est ainsi. Rien n'est stable, donc on peut discuter de tout, on peut tout remettre sur la table.
Y compris la
foi.
Pour
tout déconstruire, oui, y compris la foi, les articles de foi, pour tout déconstruire et pour reconstruire quelque chose d'autre. Puisque une autre expression, c'est un chemin de conversion vers une église synodale. Chemin de conversion, donc on est en mouvement vers une église synodale, parce que l'église actuellement ne l'est pas. Donc c'est bien la construction de quelque chose de nouveau. C'est une autre structure.
Et du type de conversion.
De conversion.
C'est pas simplement un chemin de perfectionnement, mais
non,
il faut
de conversion.
Se convertir.
Donc oui. Un retournement. De retournement.
Alors, juste une phrase.
Ensuite,
non, je confirme. Voilà une citation. La fixation de la tente est assurée par la solidité de ses piquets, c'est-à-dire les fondements de la foi, qui ne changent pas, mais qui peuvent être déplacés et plantés dans un terrain toujours nouveau, afin que la tente puisse accompagner le peuple dans sa marche à travers l'histoire. Il bouge pas, mais il bouge. Vous voyez.
Donc, alors, si on pouvait éviter les extraits. Que cette émission ne finisse pas en fou rire. Quoi. Ça serait quand même un service important.
Mais non, mais il n'y a pas de quoi rire, en fait.
Non, il n'y a pas de quoi rire. C'est bien ce qu'on essaye de dire aussi. Mais enfin, par moment, c'est une tentation. Guillaume de Thieulois.
Moi, je voudrais juste dire un mot sur le Sensus Fidei.
Ah, merci.
je trouve que, d'une certaine façon, c'est une espèce de condamnation du texte lui-même. Parce que dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'on en parle dans l'histoire de l'Église, on parle du Sensus Fidei pour résister au processus synodal. C'est-à-dire qu'au moment d'Arius, de Nestorius, vous avez toutes sortes de conciles qui se réunissent pour dire non, en fait, le Christ n'est pas tout à fait Dieu, la Vierge Marie n'est pas Théotokos. Et puis il y a les laïcs qui disent stop. Ça, c'est le Sensus Fidei. Dans le processus synodal, c'est exactement l'inverse. On met le Sensus Fidei dans le laminoir du processus synodal et on espère qu'il n'y restera plus rien du Sensus Fidei à la fin. J'ose espérer que.
En tous les cas, que le Sensus Fidei se convertisse à
autre chose.
À autre chose. Mais cette église synodale, qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle est la différence entre cette église synodale vers laquelle nous sommes censés cheminer, et avec joie d'ailleurs, et l'église telle qu'elle a existé depuis sa fondation ? Nous avons un historien parmi nous, peut-être que vous pouvez nous éclairer, monsieur l'abbé Benoît.
Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans l'état d'esprit. Je pense qu'il y a derrière ça une espèce d'imprégnation, effectivement, de l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire, oui, tout ce qui est vertical doit être horizontal, tout ce qui était solide doit être liquide. Enfin, il y a une espèce d'imprégnation de l'esprit du temps qui passera, rassurez-vous, quand se sont passées toutes ces tempêtes et toutes ces agitations. Mais qui est, voilà, c'est... Alors, je pense aussi, mais ça, j'en suis moins sûr, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a tout un élan qui est né dans les églises d'Amérique du Sud, dans le monde latin, enfin... Je voudrais pas employer de mots trop durs, mais...
Oui, vous savez, vous pouvez...
Non, mais on aime parler, on aime répéter des choses, enfin, échanger... Je dirais pas parler pour ne rien dire, mais où le fait de parler est plus important que le contenu, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est content d'être ensemble, parce qu'on est content de faire quelque chose ensemble, qu'on n'est plus perdu dans son petit coin. Enfin, il y a un aspect un peu d'héritage de la théologie de la libération et des cellules d'église du monde d'Amérique du Sud qui a imprégné un certain nombre de gens. Enfin, ça marque aussi une génération, à mon avis. Hein. Donc, c'est un peu le chant du cygne.
Voilà, le chant du cygne a dimension mondiale. Là,
oui, bah oui, non, mais l'Église est mondiale, hein, et ça incube depuis des années. Voilà, c'est.
Moi, il me semble, si on lit ce texte, c'est quand même la liberté obligatoire, hein, la démocratie autocratique, hein, la spontanéité contrainte, hein, la synodalité sans choix. On les forcera à être synodaux, comme dirait Rousseau. C'est vraiment ça. On sent qu'il faut être synodal, etc. Et de l'autre côté, je note quand même qu'au milieu de tout ça, il y a un seul qui ne partage aucunement son autorité, c'est François. Il y a un seul qui n'entre en discussion avec personne, c'est François. Il y a un seul qui attaque de façon très verticale et cléricale des institutions dirigées par des laïcs, comme l'Ordre de Malte ou le Caritas International, c'est François. Il y a un seul qui synodalise absolument pas, c'est le pape François.
Mais parce qu'il est le seul à avoir cette possibilité de pousser l'Église...
En réalité, voilà, il impose une vision une vision, ça, on pourrait le dire, ben voilà, il impose une certaine vision, mais il impose une vision qui est censée être une vision où, au contraire, ça part de la base, mais qui vient exclusivement du haut, n'est-ce pas, c'est clair, et lui s'en abstient totalement. Il gouverne de façon tout à fait autocratique, sans consulter personne.
Dans le moment historique de la transition où on ne peut s'appuyer que sur une autorité verticale,
Pour obliger les gens à être synodaux.
L'horizontalité.
Voilà. Sauf que ça fait 50 ans qu'on a ce processus, parce que le Concile Vatican II a été pensé par l'aile marchande comme
que
étant...
Que vous représentez, je vous rappelle.
comme étant le moment où l'autorité romaine allait se mettre au service de l'horizontalité de l'Église. Sauf que de deux choses l'une, soit on garde la structure divinement instituée de l'Église, et dans ces cas-là, le processus synodal peut être un truc agréable, produisant des tonnes de papier, aidant à la déforestation et quelques éléments de ce type-là.
Pas trop Laudato aussi, du coup.
Pas trop Laudato aussi. Mais donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on fasse une autre église. Mais dans ces cas-là, l'autorité magistérielle de cette autre église sera exactement zéro.
Père Jean-François Thomas ?
Oui, ça me fait penser aux pays communistes, en fait, où vous avez à tous les niveaux une multitude de représentations, de comités, donc de discussions. Et tout doit remonter vers le haut. Et puis ensuite, évidemment, c'est la tête qui décide.
C'est le Politburo
qui impose.
Et qui impose sa décision.
L'Église a été quand même très marquée par le marxisme et le demeure. Et on le voit bien, justement, dans des instances comme les instances synodales. Là, il y a des remontées, alors qu'ils ne sont pas des remontées uniquement fraternelles, qui montrent qu'on n'est pas encore à l'abri de ce type de dérive. Oui.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, par ailleurs, c'est que dans des documents de ce type, il n'est pas le seul, malheureusement, la question du salut n'apparaît absolument pas. Enfin, moi, j'avais naïvement cru que l'Église était là pour aider au salut des âmes et les conduire vers la vie éternelle. Et visiblement, ce n'est plus un horizon tout à fait qui s'impose. Vous vouliez
je vous remercie de poser la question, parce que finalement, on arrive aussi à cette idée que tous ces processus sont quand même extrêmement nombrilistes. C'est-à-dire, l'Église se regarde en train de faire Église, qui fait synode. Enfin, il y a une espèce d'hypertrophie de la réflexion sur soi, de se regarder dans la glace, comme on est. Est-ce qu'on est comme ceci, comme cela? C'est très, très nombriliste, quoi. Et finalement, voilà, ça n'a pas l'intérêt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est très intéressant parce que
à force de réfléchir sur ce qu'est l'Église, ben on ne vit plus dans l'Église et on ne participe plus à la vie de l'Église dans sa mission de salut.
Est-ce que c'est pas symptomatique justement ce regard nombriliste des institutions en décadence qui
Je n'osais pas le dire, mais c'est exactement ça.
Je sais pas s'il y a sur ce mais point des.
Il est normal qu'on ne parle pas de salut à partir du moment où maintenant, depuis des décennies, on a bien souligné le fait que le salut, il était gagné par tous, donc on n'a pas besoin de l'annoncer, quelle que soit la religion, quelle que soit aussi l'absence de religion. On va tous au paradis, donc plus besoin de ce type de discours. Et les points essentiels qui sont constamment relevés ne sont pas des points qui sont directement des points de la vie spirituelle. Vous voyez, c'est le cléricalisme, la place des femmes, le sexisme, la tension globale locale, la transparence
globale locale. Là aussi,
oui. La transparence, la formation à la synodalité, parce qu'en effet, il faut une formation maintenant qui doit être mise en place. C'est vraiment un début essentiel à la synodalité. Donc non, on ne parle pas ici de problèmes théologiques, bien évidemment, pas de spiritualité, pas de mission. Et pas d'annonce du salut, nécessairement.
Mais c'est très étonnant de la part d'un pontife issu de la Compagnie de Jésus, où le début des exercices de Saint-Ignace repose bien, le principe et fondement des exercices de Saint-Ignace repose bien le but de l'aide humaine, quoi.
Oui, là, vous n'êtes pas innocent non plus. Vous savez
et
très bien.
Et je ne suis jamais innocent.
Vous savez
c'est
très
mon,
bien.
C'est mon drame.
Que
mon drame.
Les fondateurs d'ordre religieux, c'est une chose. Les disciples, ensuite, c'est autre chose. Donc, y compris du vivant des fondateurs, il y a déjà des dérives. Ce que saint Ignace peut dire dans les exercices spirituels, alors ça ne veut pas dire que tous les jésuites en sont indignes et ne le suivent pas. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire qu'ici, il y ait une marque particulièrement de spiritualité, d'ailleurs, que ce soit une spiritualité ignatienne ou autre. C'est quelque chose qui est totalement neutre. Je ne vois pas ici la marque même du pontificat.
Évidemment, vous connaissez beaucoup mieux que moi le sujet de la spiritualité ignatienne. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la spiritualité, enfin, les exercices en particulier peuvent être utilisés, s'ils sont déspiritualisés, déthéologisés, si vous voulez, ils peuvent être utilisés comme une méthode de manipulation mentale. C'est extraordinairement efficace. Je serais bourreau commissaire politique soviétique, c'est exactement les exercices que j'utiliserais.
Oui, alors comme vous le savez, ces exercices et les constitutions également ont été utilisés de façon déviée par un certain nombre d'organisations totalitaires, y compris dans l'ASS, ça a pu être utilisé, et y compris des sociétés internationales comme McKinsey, par exemple.
C'est bien. Voilà. C'est ce que pensait Cécile Rhodes aussi, le fondateur d'un certain nombre de cercles de pensée. Il disait, pour mettre en avant et donner de l'élan à l'Empire britannique et construire son rayonnement sur le monde, vous prenez les exercices, vous enlevez Église catholique et vous mettez Empire britannique à la place.
Je reviens juste au fait que moi je ne crois pas que ça soit innocent que ce synode-là soit fait par ce pontife, enfin, soit dirigé par ce pontife-là. C'est que un des dangers, évidemment il y a des opportunités aussi, hein, mais un des dangers du pontificat actuel, c'est que l'Église et spécialement les jésuites en Amérique latine ont été quand même ravagés par la théologie de la libération et la marxisation de toute la sociologie. Cet impératif de se mettre sous les sciences humaines, elle-même devenue simplement une loupe pour essayer de comprendre la société à travers un prisme, disons, crypto-marxiste. Moi, je suis très frappé que ce texte-là, franchement, vous ne le signez pas, vous ne le mettez... C'est un texte du Politburo. C'est le texte que vous demandez au commissaire politique en charge de l'Amérique du Sud de produire en 1968, quoi. Et je ne trouve pas ça très rassurant. C'est le moins que je puisse en dire.
Est-ce que nous sommes face à la construction, là aussi je vais mettre les pieds dans le plat, pardon, enfin peut-être, en tous les cas, d'une autre Église qui s'appuie sur l'Église catholique.
Voilà, d'une autre structure interne à l'Église, ou dans notre esprit à l'intérieur de l'Église. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de construire une autre Église, mais d'autres processus dans l'Église dans lequel, effectivement, on va aller... c'est clair, c'est une Église ouverte. C'est une Église ouverte et inclusive. C'est des mots qui reviennent assez fréquemment. Une Église ouverte et inclusive, c'est-à-dire que tous les problèmes moraux, on va lâcher la bride, n'est-ce pas ? Tout le monde pourra accéder à tous les sacrements, etc. Comme c'est le cas dans les églises de type protestante, anglicane, etc., où tout le monde peut accéder à la communion, chacun se juge soi-même et à son cheminement. Et voilà, c'est un petit peu le but. Encore une fois, il y a de la pression, il y a de l'insistance, il y a de la méthode Coué, il faut, plus que... On ne sent pas de la véritable écoute des gens. On ne sent pas la véritable écoute. Ça transparaît. On sent que c'est directif parce qu'il y a tellement de répétitions des mêmes thématiques dans le même sens qu'on se dit non, l'Église est plurielle, elle est dans toutes sortes de pays avec toutes sortes de mentalités, etc. C'est impossible qu'il y ait cette ligne unique si elle n'est pas pilotée d'au-dessus.
C'est un travail d'apparatchik, ça. C'est un travail d'apparatchik.
Je vous donne la parole tout de suite, mon père, mais en fait, en vous entendant, je me disais, le but, c'est de faire une église protestante comme une autre, quoi.
Je pense qu'il y a
dans le large spectre des églises protestantes.
Voilà, d'ouvrir. Il y a quand même des structures catholiques qui persistent, etc., liturgiques, etc., bon, qui sont quand même... Mais, notamment, je pense que c'est une des obsessions du pape actuel, le voyage en Afrique l'a manifesté, du côté des problèmes moraux, hein, qui ont été, je dirais, une des dernières forteresses plus ou moins défendues après le Concile. Si vous voulez, que ce soit Humanevitae, etc. Bon, on a défendu la vie, tout ça, relativement. Et maintenant, il veut ouvrir au droit LGBT. Ça me paraît relativement clair.
Père Jean-François Thomas.
Oui, l'Église a bien les promesses de la vie éternelle. Donc, c'est une parole de notre Seigneur. On ne va pas revenir dessus. En revanche, le clergé, depuis 2000 ans, a fait tous les efforts possibles pour,
détruire l'Église.
Pour limiter au maximum l'impact des paroles de notre Seigneur. Mais je ne sais plus dans quel contexte, il y a quelques années, le pape François l'avait dit, que l'Église après lui ne serait plus la même. Il l'avait dit. Donc ce n'était pas simplement une prophétie lancée en l'air. Il avait un programme, sans aucun doute. Quel est le contenu de ce programme? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le fait dans les meilleures intentions du monde? On pourrait l'espérer, puisqu'il est souverain pontife. Quand on voit un document comme ça, on peut craindre le pire. Alors, est-ce qu'ensuite, il a lancé ce processus pour, comme il a de toute façon toujours cette tendance d'autorité pour mettre les résultats sous le coude et faire tout autre chose? C'est aussi possible. Donner l'impression qu'il y a cette synodalité, ce mouvement démocratique, etc. Et puis ensuite, passer à autre chose.
Mais effectivement, il a aussi déclaré que, l'Église synodale qu'il veut instituer, on ne pourrait pas revenir en arrière. Et ça serait impossible. Ça fait partie de ses...
Oui, mais bon, ça, si vous voulez,
De ses buts.
Oui, ce sont des déclarations.
C'est une déclaration qui est juste une déclaration...
Non, on peut toujours revenir en arrière. Ça, c'est absurde. Humainement possible, on peut toujours revenir en arrière.
Parce que, pour terminer cette émission, ce que je voudrais vous demander, c'est, après ce constat, certes rapidement dressé le temps d'une simple émission, mais que pouvons-nous faire, en fait? Que devons-nous faire? Que doivent faire tous les laïcs, pères et mères de famille, ou plus jeunes même, qui nous regardent, et devant lesquels on est en train de présenter une Église qui est entrée dans un processus qui paraît complètement fou, et qui n'a plus, à première vue en tous les cas, comme horizon, le salut des âmes? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Monsieur les abbés, mon père.
Je pense qu'il faut être tout simplement fidèle absolument à la tradition de l'Église, à ce que nous enseigne l'Église depuis toujours, à ce qu'elle nous transmet depuis toujours. Et donc voilà, ne pas tenir compte de fariboles et de folies qui veulent traverser. Encore une fois, dans le passé, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Quand Saint Jérôme dit « le monde s'est réveillé à rien », ça veut dire qu'une grande majorité d'évêques soutenaient l'arianisme, le semi-arianisme. Ce sont les laïcs, ce sont les catholiques qui sont restés fidèles là où ils étaient, en gardant tout simplement la même foi, les mêmes sacrements, la même vie spirituelle. Il y a, je dirais, une forme d'abandon des fidèles, des chrétiens, par une crise qui les dépasse, et ils doivent, là où ils sont, dans leur famille, dans leur paroisse, dans le lieu où ils sont, par des petits groupes de prière, etc., eh bien, se maintenir dans la vie chrétienne, comme dirais-je, même si tous, abandonnent autour d'eux, ils doivent continuer, et ils sont les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ dans une époque d'apostasie. C'est en partie ce que notre Seigneur nous a promis en disant « quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Alors, je ne sais pas si c'est la fin du monde déjà, c'est peut-être une simple répétition et ça viendra peut-être dans 1000 ans ou 2000 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, garder la foi, être ce petit lumignon devant l'autel qui maintient sa lumière, quoi qu'il arrive, dans la famille, dans les groupes, là où on le peut.
Pierre Jean-François Thomas, sur le même thème.
Oui, il y a bien des choses, en fait, que l'on peut ignorer et que l'on doit ignorer. Justement pour se préserver. Vous voyez, si vous n'aviez pas eu la gentillesse de nous imposer la lecture de ce texte, en ce qui me concerne, je ne l'aurais jamais lu et je ne m'en serais pas plus mal porté, sans doute. Alors peut-être ai-je tort. Donc pour la plupart des fidèles, c'est encore plus vrai que pour les membres du clergé.
Moi, je vous ai rappelé à vos devoirs, en fait.
Oui, comme Monsieur l'abbé l'a dit, l'essentiel, c'est de se maintenir, de s'ancrer dans la foi. Voilà, chacun... J'allais dire chacun pour soi, hélas. Pendant des siècles, les fidèles ont quand même eu le soutien de l'Église hiérarchique. Aujourd'hui, on est dans une période évidemment un peu plus complexe, mais bon, tout ça va retourner à la poussière. Monsieur l'abbé Benoît, tout à l'heure, disait que ben, le résultat du synode diocésain du diocèse auquel il appartient, plus personne n'en parle depuis longtemps. Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, pour beaucoup de textes de concile. On ne peut pas dire que ça ait révolutionné le monde. Voilà, donc il faut rester soi-même dans la paix.
Dans la paix.
Oui.
C'est un appel à la paix que vous lancez aujourd'hui.
Oui, mais à la paix intérieure.
La paix intérieure. Merci, mon père. Monsieur l'abbé Benoît.
Que dire après ce que nous venons d'entendre ?
Tout ce que vous voulez.
Je veux juste répéter ce que je crois déjà avoir dit dans ces lieux. Voilà, on met à la cape. Hein,
Ah, vous aimez bien cette expression.
Ah, ben, je la trouve particulièrement adaptée à la tempête que nous traversons. Voilà,
alors, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu la première fois...
Ils sont si rares, il y a tellement de gens qui nous
écoutent.
Voilà,
mais exactement. Mais la pédagogie est en fait de répétition.
Voilà, pour ceux qui ne seraient pas familiers du vocabulaire maritime, mettre à la cape constitue, au moment où la tempête risque de tout emporter le navire sur lequel vous vous trouvez, on se met dans le sens du vent, on jette une ancre flottante, c'est-à-dire... En gros, ça a la forme d'une croix, deux morceaux de bois, et on se met dans le sens du vent et on attend que ça passe.
Donc on se rattache à la croix, on peut aller jusqu'à...
Je crois que la métaphore,
la métaphore est
faite dans ce sens-là.
Voilà, est très éclairante. Mais il faut bien dire les choses clairement, vous
un
savez.
Un peu religieuse
Merci.
Quand même.
Un peu religieuse.
Oui. Voilà, mais je crois qu'il y a... Oui, les plus... je le répète, je radote, mais je disais, voilà, les plus grands marins, les plus grands navigateurs, jour de tempête, ils mettent à la cape, et puis on attend que... Quelqu'un que je ne nommerai pas ici m'a dit aussi, ben oui, on peut aussi partir en Égypte pour attendre la mort d'Hérode, mais bon.
Ça risque d'être... Oui, enfin bon, passons. Une fois n'est pas coutume, c'est le laïc hein, qui va... Mais comme quoi, nous sommes vraiment dans le processus.
Absolument.
Et qui va conclure notre mini-synode des hommes en noir, que je suis heureux d'avoir, tant soit peu, piloté.
Moi, je dirais d'abord que, effectivement, la vie est courte. On n'est pas du tout obligé de lire ce genre de document. Je pense même que c'est une perte de temps assez largement.
Mais j'ai compris.
Mais je pense qu'il faut travailler à tenir et à transmettre. Et pour ça, travailler à développer des petites communautés, parce que c'est fondamental. Et par ailleurs, il y a un autre aspect qui est quasiment dicté par le texte synodal, puisque maintenant la sociologie a remplacé la théologie. Je propose qu'on regarde un petit peu sociologiquement à quoi ressemble l'institution vermoulue qui produit ce genre de documents. Dans 20 ans, elle n'existera plus. Et donc, il faut tenir 20 ans et être prêt à transmettre. Quoi.
Oui, mais c'est ça. Mais pour nos enfants, nos petits-enfants... ça vous concerne peut-être pas encore, mais je parle pour les petits-enfants,
pas encore, hein.
Mais je souhaite que ça vous arrive. Donc, pour transmettre la réalité de l'Église quand ce qui est sous vos yeux n'est pas...
Oui, mais je suis désolé, mais les ONG catholiques n'ont pas les promesses de la vie éternelle, ou les institutions... ce qui a les promesses de la vie éternelle, c'est l'Église de Dieu,
telle communauté nouvelle, aucune.
Ou pas nouvelle. Très bien, bah merci messieurs de ces mots pleins d'espérance. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Une petite phrase d'un anglais, c'est dans le texte, c'est la seule phrase intéressante. « Je ne fais pas confiance au synode, je pense qu'il a été convoqué pour introduire de nouveaux changements dans les enseignements du Christ et infliger de nouvelles blessures à son Église. »
Amen. Merci beaucoup de ce témoignage d'outre-Manche. Nous nous retrouvons, si Dieu veut, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités, un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.